I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Donc nous sommes samedi 29 mai 2021. Bonjour Michel et bonjour Axel. Nous sommes ravis de vous recevoir. Nous allons parler maintenant de beaucoup de choses en même temps. Alors, nous allons parler d'Espace Noir, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une coopérative anarchiste. Peut-être allez-vous démentir ou compléter cette assertion. À vous de le faire. Espace Noir qui se situe à Saint-Imier. Donc, une coopérative anarchiste opérationnelle qui, au quotidien, est ouverte, reçoit des gens et puis anime les discussions publiques à Saint-Imier. Mais les gens viennent de loin pour vous rencontrer également, quoi. Avec une infrastructure incroyable, puisqu'à l'intérieur, il y a une librairie, il y a, alors, évidemment, on est en période compliquée, mais je sais qu'il y a, bah, il y a le bar, comment vous appelez ça, la taverne?
La taverne.
Voilà, ouais. La taverne. Il y a un espace de projection également. Enfin, vous allez égrener tout ça, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Nous allons parler d'Espace Nord, nous allons parler également du congrès de Saint-Imier de 1872, de son héritage et de sa commémoration ou célébration qui se tiendra a priori, non, on peut dire qui se tiendra à Saint-Imier en 2022. Axel, est-ce que je peux le dire?
Oui, tout à fait, ouais.
Voilà, alors après tu nous parleras de date et puis de modalités si, et de où on est et des besoins de l'équipe horizontale d'organisation. Nous allons parler de ça et en parlant de tout ça, eh bien évidemment, nous allons parler d'anarchisme. C'est un sujet, voilà, qui nous mobilise toutes et tous ici et qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, on va procéder comme ça. Une petite partie commune, un préambule, et puis ensuite deux parties. Une première partie qui sera vraiment basée sur le congrès qui suit la première internationale, ses valeurs, son héritage, etc. Et une deuxième partie qui fera le focus sur ce 150e du congrès qui se tiendra à Saint-Imier. On y va comme ça?
Alors,
c'est parti. Alors, le préambule, voilà, j'aurais voulu que vous vous présentiez, Michel et Axel, à votre guise, qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous, et notamment au sein de la coopérative anarchiste d'Espace Noir.
Moi, je te laisse commencer, Michel.
Alors, moi, je suis donc coopérateur à Espace Noir depuis plus de 30 ans. J'ai été avant cela et encore maintenant militant de la Fédération Libertaire des Montagnes et je participe à une nouvelle coopérative, la coopérative audiovisuelle d'entraide, qui a pour but de favoriser la création cinématographique et un grand projet sur lequel on est, qui a un rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le projet de faire un documentaire sur la Fédération jurassienne et un peu sa suite jusqu'à la guerre de 14.
Très bien, merci beaucoup. Axel.
Alors, moi je suis bénévole à Espace Noir. Je m'occupe principalement de la librairie et du cinéma avec d'autres personnes. Voilà, ça fait 3 ans à peu près que j'y travaille. Avant ça, j'étais pas du tout politisé ou je m'intéressais pas aux questions politiques. Donc c'est vraiment à travers Espace Noir que je me suis politisé. Et puis sinon, voilà, ouais, je suis aussi dans l'organisation pour les rencontres internationales anarchistes de 2022.
Très bien. Donc on parlera en deuxième partie de l'interview. Alors merci beaucoup. Peut-on dire, pour commencer, qu'on n'entre pas, on ne sort pas, pardon, d'Espace Noir de la même manière qu'on y est entré? Est-ce qu'on en sortons indemne?
Ah, ça dépend, combien de verres on a bu.
Alors voilà, là c'est extrêmement intéressant que tu commences par ça, parce que mettre en avant la convivialité, la fraternité, c'est peut-être quelque chose qui, des fois, manque lorsque on est dans une posture combative, en disant, voilà, ce monde part en cacahuète, il faut faire quelque chose. Peut-être que des fois, on oublie de prendre le temps de partager, d'échanger et ces espaces d'adelphité, de fraternité, de sororité, eh bien, ils sont là également pour forger ces luttes d'une certaine manière et forger ces affinités qui vont nous rendre plus forts.
Oui, c'est autrement plus vrai qu'à Espace Noir. Le but, ce n'est pas de faire un petit club d'anarchistes. On va bien au-delà, on a un but communautaire, on se veut ouvert, tous ceux qui participent ne sont pas forcément anarchistes, connaissent dans les valeurs comme l'autogestion, par exemple, bien sûr. Il y a des choses qu'on ne tolère pas, c'est par exemple la discrimination, mais toute personne, de toute opinion peut venir pourvu qu'elle respecte ces quelques règles. Et nous, au contraire, Espace Noir appartient, il est vrai, au mouvement libertaire, il a été créé pour appartenir au mouvement libertaire, mais il appartient aussi aux gens de la région, aux gens qui s'intéressent à la culture, aux gens qui s'intéressent au débat.
Oui. Depuis quand Espace Noir existe-t-il?
Alors, Espace Noir s'est ouvert en 1986.
Et c'était à l'initiative de quoi? D'un groupe d'activistes comment ça s'est passé, cette création, ce surgissement?
Alors, ce sont un groupe d'Imériens. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Hein. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient là autour, notamment avec un architecte qui était Maurice Borne, et puis qui avait fait un héritage qui avait permis de racheter l'immeuble qui était en ruine. Ah oui. Et à partir de 1984, ils ont commencé les transformations. Donc, pendant 2 ans, ils ont rénové cet immeuble qui, dont l'extérieur, disons, n'a pas énormément changé, sauf qu'il est plus neuf que quand ils l'ont pris. Mais l'intérieur a passablement changé, parce que, par exemple, il y a un hall d'entrée avec une petite lumière et tout ça, ça a été créé pour créer ce côté convivial et cet ensemble de choses. Parce que le but d'Espace Noir, c'est pas d'avoir dans son coin un cinéma, dans son coin une librairie, puis que chacun fasse leur truc à eux, leurs petites histoires à eux. C'est bien de réunir tout ça pour éclairer, disons, la culture, les idées des gens, pour leur permettre ce mélange que permet un espace culturel et social qui sont appliqués dans les luttes sociales.
D'accord. On va s'y arrêter quelques instants. On va faire quand même assez vite, mais tout de même, je pense que c'est assez important pour qu'on s'y arrête un moment. Espace Noir, en 3 questions. J'aurais envie de vous demander l'infrastructure. Comment est-ce qu'elle est, même si vous l'avez déjà ébauché. Donc effectivement, c'est un grand bâtiment avec à l'intérieur plusieurs infrastructures accolées et qui interagissent. La deuxième question, mais je vous les répéterai après, hein, là je les annonce un peu comme un sommaire, c'est la question du voisinage. Par voisinage, j'entends le voisinage direct, géographique, mais également le voisinage politique. Est-ce que ça se passe à Saint-Imier? Est-ce que ça va? Est-ce que de temps en temps, il y a tout de même des tensions? Il y a pu en avoir ici à Genève lors de certains squats politisés où il y a eu même des actes de violence extrêmes. Je ne vais pas revenir sur la situation de Prénaville, par exemple, à l'époque, mais voilà, il y a des situations vraiment extrêmement violentes. Et puis, le troisième volet, la même question, c'est l'équipe. Parce qu'évidemment, comme Michel vient de le dire et comme Axel, tu t'es présenté, pour faire vivre un esprit, il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur et que ces gens cohabitent dans la meilleure entente possible. Alors, voudriez-vous égrener ces 3 sujets-là, un petit peu comme vous le voulez, l'infrastructure, nous dire un petit peu comment ça s'organise, et puis ensuite le voisinage et ensuite l'équipe.
Alors, pour l'infrastructure, disons que, pour résumer, donc, comme tu l'as dit, il y a une taverne, hein, qui est un peu la place du village, l'espace noir, là où les gens interagissent le plus. Il y a la librairie, il y a un petit cinéma de 35 places, une salle de théâtre-musique, genre théâtre de poche, où on fait évidemment du théâtre, mais aussi on y présente toutes sortes de musique. Hein, ça peut aller du jazz jusqu'au punk rock, en passant par les chansons à texte, on a même parfois fait de la musique classique. Le but justement aussi, c'est de briser un peu tous ces cloisonnements qui existent, qui sont d'ailleurs, me semble-t-il, de plus en plus forts. Mmh. Depuis la guerre, peut-être qu'ils étaient tout aussi forts avant la guerre, mais il me semble que avec l'événement des réseaux sociaux, tout ça, qu'on se renferme toujours plus sur soi-même et qu'il est intéressant de mélanger les genres et de mélanger les goûts et les personnes.
très bien. Merci.
J'ai oublié un secteur. Ah oui, la galerie. Donc, oui. Où on fait autant des... Ça dépend des périodes où on est plus sur l'exposition didactique ou exposition artistique, photos, peintures et autres. Mmh. Il y a l'infokiosque. On reçoit une presse très, très large. Comme je disais tout à l'heure, on est pour l'ouverture, donc on reçoit bien sûr les journaux libertaires, on fait des brochures libertaires, mais on reçoit aussi des journaux syndicaux, des journaux de tendance écologiste, des journaux de gauche, très vastes. Et puis on a la presse locale aussi, même si la presse locale, c'est plutôt une presse bourgeoise, mais on trouve intéressant de pouvoir avoir aussi des informations au niveau régional. Et évidemment, on est abonné au courrier.
Eh bien, évidemment. Et alors, qu'en est-il du voisinage? Par voisinage, j'entends donc le voisinage géographique. Est-ce que voilà, ceux d'à côté vous embêtent de temps en temps en disant « vous faites trop de bruit », en gros? Et puis le voisinage politique, est-ce à dire que la situation à Saint-Imier permet que vous puissiez vous exprimer librement sans être ni menacé ni inquiété?
Alors... On n'a jamais eu de grosses menaces. On a assez peu de plaintes, étonnamment, même quand il y a des concerts, des concerts punk.
Ouais, je pensais à ça. Ouais.
Il est vrai qu'il y a des gens qui ne mettront jamais les pieds, qui fantasment beaucoup sur l'espace noir, qui ont l'impression que tout le monde se drogue, que toutes sortes de rumeurs peuvent se raconter, mais en même temps, il y a quelque chose qui peut être quelque part les font réfléchir, c'est que plusieurs personnes de Saint-Imier m'ont dit que ça les étonnait parce que quand ils allaient à Lausanne, à Genève ou même à Zurich, et qu'ils disaient qu'ils venaient de Saint-Imier, on leur disait « Ah, il y a l'espace noir
!» C'est on tellement vrai.
Alors, évidemment...
Non, mais c'est
autrement, Saint-Imier n'est pas spécialement... c'est pas la ville la plus progressiste, le village le plus progressiste qu'on ait trouvé, c'est pas non plus le plus réactionnaire. Mais c'est vrai que... il y a ce côté où à la fois on reconnaît, puis on est quand même intéressé, puis le fait qu'on ait rappelé aussi toute cette histoire, puis parce que avant Espace Noir, les gens de Saint-Imier ignoraient complètement ce passé anarchiste. Ça avait été complètement occulté.
C'est fou.
Et quelque part, le fait que qu'ils découvrent que en fait on est endogène, donc on a autant le droit que d'autres d'être sur le lieu, et ça fait qu'il y a peut-être une plus grande tolérance. D'autre part, il y a le côté de la proximité. Hein. Dans une grande ville, on peut aller essayer de casser la gueule au gars, attaquer un coin... on a peu de chance de se recroiser le lendemain. Tandis qu'ici, évidemment, tout le monde se connaît un peu, ça a d'autres conséquences. Bien que pendant la question jurassienne, il se va pas mal taper dessus les uns sur les autres.
Ah ouais, évidemment. Mais
l'espace noir n'était pas encore présent à ce moment-là.
Axel, concernant l'équipe, parce que ça, c'est fondamental, toi qui es bénévole et qui t'occupe, si j'ai bien compris, de la taverne et également du cinéma, c'est ça? Alors voilà, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette équipe? Comment est-ce qu'elle prend des décisions? Et puis, parce que ça, c'est toujours assez révélateur, je trouve, assez emblématique, qu'est-ce qui se passe en cas de dissension, de petits problèmes à l'intérieur? Comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, évidemment, on fonctionne en autogestion. Et donc on se réunit toutes les semaines le lundi matin. Donc on a une séance, on a la réunion du lundi. Et puis là donc on discute de l'organisation de voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine, donc qui s'occupe de la taverne, qui remplit les horaires de la taverne, mais aussi les nettoyages, les projections cinéma, qui s'occupe de la librairie. Mais aussi voilà, quand il y a des projets, des événements à créer, c'est le lieu de justement la discussion la grande discussion de la semaine, quoi.
Ok. Alors,
on peut dire aussi qu'on parle autant justement du quotidien, comme vient de dire Axel, mais aussi il peut arriver les questions de fond, puis les documents qu'on fait, les contrats sociaux qu'on a les uns avec les autres, parce qu'on a publié un certain nombre de documents pour expliquer aux gens qui viennent participer. On entend par autogestion qu'on attend les uns des autres, et ces documents sont évidemment peuvent toujours être remis en question à tout moment, justement pendant la séance du lundi.
Ce qui est intéressant, c'est que donc vous questionnez perpétuellement le rapport au travail. On peut dire ça comme ça.
Oui.
D'accord. Oui. Concernant, je ne t'ai pas entendu sur les désaccords potentiels, est-ce que vous avez là également une praxis pour les gérer? Et j'aurais voulu aussi savoir si vous exercez une forme de tournus, parce qu'on ne tire pas une bière comme on ouvre un livre, peut-être. Est-ce que on essaie de faire comme ça des fonctions un peu transversales où il faut quand même avoir des corps de métier un petit peu spécifiques, spécialisés?
Alors oui, bon, pour les décisions, bon, généralement, on est plus ou moins d'accord sur des petits changements ou des petites décisions à prendre. Ça peut arriver aussi qu'on soit en désaccord. Et puis ça peut arriver, bon, c'est très rare qu'il y a des grands désaccords.
Et du coup, là, vous fonctionnez comment? En médiation? Vous cherchez de façon le consensus? En ayant de la patience? Enfin...
Alors, ça nous arrive de voter dans ces cas-là. Mais encore une fois, c'est assez rare qu'on soit en désaccord.
Ouais.
Quand ça arrive, on peut voter, ou vraiment si c'est très clivant, on peut remettre la discussion à plus tard, ou laisser le temps de réfléchir et puis en rediscuter.
On peut prendre une décision à un moment, mais elle est tout le temps, on peut tout le temps la remettre en question.
Ouais. Ouais.
Alors on essaye effectivement le consensus. Sur la question du consensus, alors je sais qu'il y a des groupes qui ne fonctionnent que sur le consensus, mais là ça veut dire pour éviter qu'il y ait des prises de pouvoir, dit-on, d'une majorité sur une minorité qui ne serait pas si minoritaire que ça. Mais le problème, c'est qu'avec le consensus absolu, on ne résout pas le problème, parce que finalement, ça sera le plus têtu qui va prendre le pouvoir, celui qui ne voudra pas faire un pas vers l'autre, qui finira par toujours imposer ses idées. C'est pour ça qu'on a décidé que parfois, on prend certaines décisions sous la forme d'un vote, surtout si c'est sur des problèmes qui ne sont pas fondamentaux.
Ouais, ouais. C'est intéressant de savoir que c'est d'une certaine manière également un laboratoire, l'Espace Noir, de ce point de vue-là.
Absolument.
Un laboratoire de démocratie directe et de fonctionnement en commun, affinitaire. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Concernant ces différentes fonctions, est-ce que vous fonctionnez plutôt en tournus, ou est-ce que vous fonctionnez plutôt en disant « Non, il faut quand même des groupes de gens qui soient, disons, plus prêts à faire cette mission-là plutôt qu'une autre ?» Également aussi affinitairement, quelqu'un qui a envie plus de tirer des bières, il a peut-être moins envie d'ouvrir un bouquin, et inversement, ou pas.
Alors il y a les deux, en fait.
Voilà.
Il y a à la taverne, à la librairie, au cinéma, il y a vraiment un tournus.
Ouais.
Parce que c'est simple d'avoir un tournus dans ces secteurs-là. Mais par exemple, pour ce qui est de la comptabilité et travail administratif, là faut pas se leurrer, c'est vraiment c'est compliqué dès qu'il y a des tournus dans ce secteur-là. Donc là, ouais, du coup, c'est plutôt Michel qui s'occupe de ça. Et puis,
Vous lui avez laissé les corvées dans le bleu.
Ouais. Depuis quoi, 36 ans?
Non, parce que je n'ai pas toujours fait la comptabilité.
Ouais.
Pour préciser, les documents sont à disposition. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un renseignement sur la comptabilité peut à tout moment y reconsulter. Et puis, un autre empêchement, on pourrait faire un tournus à la comptabilité en disant, par exemple, une année sur deux ou six mois, chacun, enfin, il y aurait des possibilités. On ne pourrait pas faire un tournus tous les jours ou bien des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une difficulté au niveau de l'autogestion, c'est qu'il y a cet aspect communautaire ouvert à toutes sortes de propositions. Donc, on peut utiliser Espace Noir... de différentes manières, Par exemple, il y a des gens qui s'intéressent au cinéma puis qui feront que deux projections par semaine. D'autres qui seront plus sur la librairie, puis d'autres qui auront envie de faire un peu tout. Il y a des gens qui sont là presque tous les jours, il y a des gens qui seront là justement que de temps à autre. Ce qui fait que, comme on a une volonté égalitaire, ça complique un peu les choses. Alors il faut trouver un peu des techniques pour permettre aux gens de s'investir, que ce ne soit pas seulement l'espace de quelques-uns qui ont le temps de venir. Mais que même si on travaille à l'extérieur, eh bien, qu'on puisse quand même développer des projets. Et la contrepartie, c'est qu'effectivement, c'est plus difficile pour faire des choses qui sont effectivement bon pour l'autogestion, qui sont des tournus.
Ouais. Oui, donc je comprends bien qu'il y a cette affinité qui affleure et de chacun avec ce qu'il veut réaliser, avec le travail qu'il veut faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir justement en prendre compte, quoi. Et puis qu'également, vous n'occultez pas la complexité des situations et que vous essayez d'y répondre. Et en ça, je trouve que, voilà, tout est résumé. Ceci résume l'esprit de Saint-Imier, je trouve. C'est qu'on a cette volonté et de laboratoire et de se questionner tout le temps et également de comprendre qu'effectivement, il y a des situations qui sont des fois inextricables et pour lesquelles il faut avoir des traitements, disons, un petit peu différenciés. Merci beaucoup pour cette partie sur l'infrastructure, hein, sur Espace Noir. J'aurais maintenant voulu vous entendre sur, de quelques mots, avec quelques commentaires, quelle est votre position et quelles sont vos observations concernant le mouvement anarchiste à Saint-Imier et un petit peu partout. Selon vous, à l'aune de ce qui nous encercle, évidemment, on est obligé de parler de la crise sanitaire, comment est-ce que vous sentez le mouvement anarchiste, peut-on dire qu'il a le vent en poupe? Peut-on dire qu'il est en fait un petit peu hésitant? Ou voilà, si vous deviez y coller des mots, lesquels seraient-ils?
Bon, le mouvement anarchiste, je dirais qu'il reste un mouvement minoritaire, mais qu'il a quand même plutôt le vent en poupe, surtout depuis la chute du mur de Berlin. On voit un retour vers les idées anarchistes, soit au sein de mouvements anarchistes, de groupes anarchistes, l'espace Bergerin-Neuchâtel, c'est la Fédération Libertaire des Montagnes qui est un groupe anarchiste, qui regroupe les anarchistes, mais il y a des anarchistes qui ne sont pas membres de la Fédération Libertaire des Montagnes aussi. Et on retrouve aussi, justement, dans les mouvements pour le climat, dans les syndicats de base, quand même des choses qui avaient été développées dans l'international anti-autoritaire, comme l'action directe, qu'on a retrouvé dans Extinction Rebellion, comme l'autogestion, qu'on trouve dans toutes sortes de coopératives, de squats et de projets multiples. Dans le sens presque contraire, on a retrouvé, par exemple, dans les écrits de Kropotkine, des choses qui pourraient s'assimiler avec des projets de décroissance, de circuits courts. Donc, il y a des choses qui réexistent. Donc, le mouvement anarchiste, à mon avis, amène toutes sortes d'idées qui sont soit reprises, soit réinventées. Je sais pas, Axel, si t'as...
Ouais, j'ai rien à ajouter, c'est parfaitement.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce commentaire. On l'a pas encore dit. www.espacenoir.ch. Ça, c'est le site internet d'Espace Noir sur lequel vous trouvez toutes les informations concernant l'ensemble de l'infrastructure. Alors, comment, selon vous, toujours, qu'a dit de nous cette crise sanitaire? Est-ce que, selon vous, on y a trouver quelque chose qui, peut-être, pourrait rassembler? Ou au contraire, est-ce que, selon vous, on est plus là, on observe plus de divisions encore, plus de questionnements, plus de doutes? Voilà, et puis avec son corollaire, eh bien, une oppression qui va augmentant, plutôt qu'une libération qui surgirait.
Bon, c'est peut-être un peu tôt pour tirer vraiment des conclusions de ce qui s'est passé. Bon, je dirais que c'est à l'image de ce qui se passe, mais depuis avant le coronavirus, mais qui s'est encore plus révélé dans le sens d'une polarisation. Mmh. C'est-à-dire que quand tu opposes ce que tu as opposé, en fait, ne sont pas coexistent complètement. C'est-à-dire que ça a amené beaucoup de doutes, ça a amené des solidarités auxquelles on ne s'attendait pas, des remises en question encore plus fortes, qui étaient souvent déjà présentes avant, mais aussi des côtés plus carrés, des côtés... Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est à quel point, ce que je savais déjà avant, mais à quel point l'irrationalisme et les certitudes faciles pouvaient se développer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer et qui m'a semblé assez impressionnante et parfois assez inquiétante, parce que parmi ces certitudes faciles, on sait que ça permet toutes les manipulations, et notamment les manipulations de l'extrême droite.
Mmh. Axel, tu as quelque chose à dire à ce propos ?
Alors, ouais, par rapport à la crise sanitaire, pas vraiment. Mais par contre, par rapport au confinement qu'on a tous vécu, ouais, ça, je pense que ce que ça dit de nous, enfin, c'est, ça a quand même révélé ce confinement qui a duré quand même maintenant quoi, plus d'un an. Mmh. La nécessité d'avoir des lieux collectifs, parce que pour prendre l'exemple de Saint-Imier, Espace Noir était fermé Et puis c'est vrai que, enfin, en tout cas, beaucoup de gens dans mon entourage, des clients aussi habituels d'Espace Noir, enfin, beaucoup ont déprimé quoi pendant cette période, parce que justement il n'y avait pas de lieu pour se rassembler, ça a mis en lumière la nécessité quoi de lieux pour se retrouver, et la culture aussi quoi.
Ouais. Donc effectivement, quand on parle de convergence, on parle également d'ensemble, cette notion d'être ensemble et d'aller ensemble.
Le CLS, Cercle de Lecture Sociale. Lire, c'est dire. Dire, c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Info sur www.libradio.org.